essayer de comprendre ce que représente le sommet de la pensée philosophique, de la philosophie première, la contemplation philosophique. Dans quelle mesure pouvons-nous parler d'une contemplation philosophique et quelle est cette contemplation philosophique? Et de voir en parallèle avec cette contemplation philosophique ce que représente en éthique chrétienne le point de vue de la sainteté. C'est une question importante, difficile. Mon père Festugère a touché ce sujet plusieurs fois dans ses écrits. Mon père Festugère avait une tête très grecque. Il aimait énormément Platon, moins Aristote, mais énormément Platon. Et le père Festugère, étant dominicain, savait quand même un tout petit peu ce qu'était la sainteté chrétienne. Et il opposait très fort les deux. Et ce serait intéressant de reprendre cette opposition que le père Festugère faisait en disant la théoria, la contemplation, est strictement grecque. Elle n'a rien à voir avec l'Évangile qui nous parle de la sainteté, qui nous parle du primat de l'amour. Et le père Festugère était très sensibilisé là-dessus, d'une façon profonde et intéressante. C'est très vrai que la théoria, la contemplation, a été poussée très loin en terre grecque. Le sommet de la sagesse philosophique, pour Platon, c'est la théoria, la contemplation. Le sommet de la philosophie première, pour Aristote, c'est la théoria, la contemplation. Là, le disciple rejoint son maître, ou suit son maître. Tous les deux affirment que c'est la contemplation qui est au terme de toute la recherche philosophique et que le propre de la sagesse, c'est de contempler. Nous verrons que représentent ces deux grands types de sagesse. Immédiatement après Aristote, chez les stoïciens, ce n'est plus la contemplation qui est au terme de l'activité humaine, c'est beaucoup plus une activité politique et une activité morale. C'est ce qui caractérise les stoïciens. Et après les stoïciens, nous retrouvons la contemplation chez les néoplatoniciens, comme Plotin. Mais Plotin montre que la contemplation demande d'être dépassée par l'union, l'énosis, l'union avec l'un. Avec l'un qui est le principe suprême, l'hypostase première, d'où émanent toutes les autres hypostases. Autrement dit, dans Plotin, il y a comme un dépassement de la contemplation pour parler d'une union mystique. Je mets mystique entre parenthèses. Mais au fond, c'est cela. C'est une union d'amour qui conduit au silence. C'est le silence intérieur qui est l'activité suprême du philosophe. Avec Plotin, on est en présence de ce problème très délicat et intéressant de savoir si c'est une mystique naturelle. Si on peut parler d'une mystique naturelle au-delà d'une contemplation philosophique. C'est un problème qui reste toujours actuel. pour ne pas dire c'est un problème passé qui n'a pas d'intérêt aujourd'hui, quand on regarde la philosophie de l'Inde, quand on regarde les grandes traditions religieuses, on se retrouve devant toujours ce même problème. Y a-t-il une mystique naturelle ou la mystique est-elle essentiellement surnaturelle? Alors là, en terre chrétienne, on peut dire que la sainteté, c'est l'épanouissement plénier de notre de l'amour avec Jésus, avec le Fils bien-aimé, et par lui, avec le Père. Et donc, il y a, en terre chrétienne, une mystique qui est comme le sommet de la vie chrétienne. Et à l'intérieur de cette mystique, on parlera de nouveau de contemplation. Mais la contemplation est comme enveloppée par une attitude fondamentale qui serait vraiment cette unité de vie, cette mystique d'amour avec celui qui est notre Père, celui qui est notre Sauveur, celui qui est l'Esprit du Christ. Autrement dit, le mystère de la contemplation n'apparaît plus avec ce caractère aussi absolu, comprenez bien, qu'au plan purement philosophique. Les saints qui sont des mystiques, qui sont ceux qui sont mis par l'Esprit Saint, sont enfants de Dieu. Et cela, en tant qu'enfants de Dieu, ils vivent à l'unisson de l'Esprit Saint et du cœur du Christ. Ils sont auprès du Père. Et c'est l'amour qui domine. La contemplation est comme ordonnée à l'amour. Elle est dans l'amour, mais elle est comme ordonnée à l'amour. Et c'est l'amour qui achève tout le grand mystère de la vie chrétienne. Vous voyez donc le problème qui peut se poser, c'est que le Père Festugère situe avec beaucoup de force quand il montre que, de fait, il y a comme une opposition entre la contemplation philosophique et la sainteté chrétienne. Nous allons voir s'il y a vraiment une opposition. Il y a une distinction, ça c'est très net. Il suffit de lire l'Évangile. Dans l'Évangile de Saint Jean, ce n'est pas le mot théoria qui apparaît le plus. C'est demeurer dans mon amour. C'est cet aspect d'unité et de demeurer dans l'amour du Père et du Fils qui semble être le leitmotiv ultime de tout l'Évangile de Saint Jean. C'est là où on découvre qu'il y a quand même quelque chose de différent que ce que représente la contemplation dans la philosophie grecque. Alors c'est important de bien saisir cette distinction. Je ne crois pas qu'il faut en mettre une opposition, mais il faut maintenir les distinctions. Alors, si vous voulez, d'abord, nous allons essayer de comprendre ce qu'est la contemplation philosophique. Qui ne lui reste pas commode. Parce que la contemplation philosophique, au dire d'Aristote, elle ne peut naître en nous qu'à partir de 45 ans. Alors, c'est une chose rare. Dit Aristote, il dit, ça ne peut naître qu'à partir de 45 ans, et c'est une chose rare. Parce qu'il faut avoir maintenu dans sa vie un désir de contemplation et accepter qu'au point de départ, cette contemplation, elle soit comme un désir, un appel, mais qu'elle se montre comme un tout petit peu comme la petite lumière au terme d'un tunnel. Il y a quelque chose, c'est déjà beaucoup de dire il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose que nous voyons et nous comprenons que notre intelligence, notre esprit, alors prenez intelligence ici au sens grec, non pas au sens français, c'est-à-dire le nous. Et l'intelligence au sens grec, c'est presque ce qu'on appellerait nous l'esprit. Le pneuma. Je crois que c'est important parce que le mot intelligence pour nous est très facilement ramené à la raison. Alors, on dit l'intelligence, c'est la raison. Pour Aristote et pour saint Thomas, l'intelligence est plus que la raison. On retrouverait quelque chose d'analogue dans Bergson, vous voyez, quand il parle d'intuition et quand il parle d'une connaissance abstraite. La connaissance abstraite, c'est la connaissance raisonnante. Quand nous raisonnons, nous savons très bien que nos raisonnements proviennent justement de quelque chose qui provient de nous, qui est tout à fait en connaturalité avec nous, où la logique a une base très importante. Tandis que l'intuition est quelque chose de beaucoup plus profond pour Bergson, qui dépasse ce point de vue du raisonnement et qui nous permet d'être en contact avec la réalité la plus profonde, la durée vitale, qui pour lui est la réalité la plus profonde. Et que c'est cela que nous devons chercher à travers tout. Pour saint Thomas, l'intelligence, c'est avant tout l'esprit qui discerne, qui juge, et qui, au sommet, contemple. L'intelligence perfectionnée par l'habitus de sagesse, c'est-à-dire perfectionnée par cette qualité particulière qui est la sagesse, une sagesse acquise. Je dis bien une sagesse acquise. La philosophie, ça s'acquiert. On devient philosophe. On ne naît pas philosophe. On devient philosophe, on devient sage. Donc il y a de l'espoir. On devient progressivement. Ça met du temps, mais on devient. Cette sagesse, elle est source de contemplation. Et c'est l'intelligence qui, dans son activité ultime, contemple. Tant que l'intelligence n'a pas découvert ce qu'est la contemplation, notre intelligence demeure insatisfaite. Et si notre intelligence demeure insatisfaite, notre intelligence cherchera nécessairement des compensations au dehors. Il faut que l'intelligence arrive à découvrir ce qu'est la contemplation pour justement qu'elle puisse se reposer. C'est pour ça que si facilement on identifie contemplation et repos. Le repos est une conséquence de la contemplation. Tant qu'il n'y a pas contemplation, il y a recherche, tendance vers. Peggy, à sa manière, il n'est pas philosophe, mais il a le sens de la philosophie, il dit que le propre du philosophe, c'est de remonter à la source. Et donc on comprend très bien que tant qu'on n'est pas remonté à la source, on n'est pas satisfait. Alors on risque toujours, la tentation permanente, c'est de descendre le fleuve. Donc de faire comme tout le monde, parce que c'est plus facile de descendre le fleuve. Notre raison, elle descend le fleuve. On raisonne indéfiniment. Tandis que contempler, c'est le vol de l'aigle, c'est remonter à la source. Et c'est être lié à cette source, en ne comptant que par moment. On ne peut contempler que par moment. Et Aristote a cette phrase que je trouve très belle, ce que Dieu vit tout le temps, nous le vivons par moment. Et nous le vivons justement dans le point de vue de la contemplation. Il y a des pages extrêmement belles d'Aristote sur la contemplation. Dans Platon, il y en a beaucoup aussi. Mais dans Aristote, il dit avec une précision plus grande. Il y a des pages très belles sur la contemplation dans l'éthique et au terme de l'éthique. Vous voyez bien que nous restons dans l'éthique. Nous restons dans la philosophie morale. La philosophie morale s'achève dans la contemplation. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, évidemment, quand vous dites que la philosophie morale s'achève dans la contemplation, qu'est-ce qui comprend ça? Parce qu'on descend le fleuve. Et on ne remonte plus à la source. Et c'est vrai, il faut bien le reconnaître. C'est très rare que la philosophie aboutit à la sagesse. C'est très rare que la philosophie a le courage d'aboutir à la sagesse. On s'occupe avant tout de l'opinion des autres philosophes, ce que les autres ont dit. Et comme il y a très peu de philosophes qui ont parlé de la sagesse, on s'en occupe moins. Descartes n'a pas beaucoup parlé de la contemplation. Il n'en a pas parlé. Or, notre philosophie française, bien souvent, elle naît avec Descartes. Il faut remonter aux Grecs. Je sais qu'aujourd'hui, on a un désir de remonter aux Grecs. Et on sent très bien que la philosophie heideggerienne a voulu remonter aux Grecs, pas seulement Heidegger, mais beaucoup d'autres philosophes remontent aux Grecs aujourd'hui, pour retrouver les sources. C'est ce que Merleau-Ponty disait, c'est que les Grecs sont les sources. Et on remonte aux Grecs pour redécouvrir quelque chose qui soit comme un renouveau de la philosophie. On est un peu fatigués, les philosophes d'aujourd'hui. Ils sont fatigués, ils ne savent pas toujours quoi dire, alors ils inventent des tas de sujets extraordinaires. Alors on fait la philosophie de la fatigue, on fait la philosophie du repos, on fait la philosophie des ornières, on fait la philosophie des limites, on fait la philosophie... Tandis qu'avant, c'était la philosophie du sommet. C'est évidemment plus difficile. C'est beaucoup plus difficile, il faut monter beaucoup plus haut. Parce que si on n'est pas monté, on ne peut rien dire. Tant qu'on n'a pas soi-même fait cet effort et cette expérience, c'est une expérience, la sagesse, la contemplation. Alors, qu'est-ce que c'est cette contemplation philosophique? Des philosophes l'ont fait, ça j'en suis sûr. Et nous pouvons tous la faire. Si nous avons le courage de remonter le fleuve, et de remonter à la source. C'est difficile. Et très souvent, on s'arrête. On s'arrête à la philosophie de l'amitié. C'est déjà très beau, faire la philosophie de l'amour et de l'amitié. On s'arrête à la philosophie du travail. C'est déjà très beau. On s'arrête à la philosophie politique. C'est très vrai que la philosophie politique ne nous conduit pas à la sagesse. Ne nous conduit pas à la contemplation. Vous n'avez jamais vu un candidat se présenter pour les élections européennes, n'est-ce pas, en disant « moi je suis un contemplatif ». On dira « ça n'a rien à faire avec le point de vue politique ». Et c'est vrai que ça n'a rien à faire avec la philosophie politique. La philosophie politique reste à un autre niveau. Mais l'homme est fait pour la contemplation. Et c'était la grande vision d'Aristote et de Platon. Là, les deux sont d'accord. On pourrait dire que c'est les deux grands-pères de la philosophie. tous les deux sont d'accord, c'est que l'homme est fait pour la contemplation. L'homme est fait pour la contemplation, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Et que c'est naturel pour l'homme de contempler. Que c'est rare, mais que c'est naturel. C'est pas un don de grâce. C'est pas quelque chose qui est, si vous voulez, donné gratuitement à certains que d'autres n'ont pas. Aristote dira que c'est quelque chose de surhumain, il ne dira pas surnaturel. C'est surhumain en ce sens que ça exige un très grand effort et que ce n'est que là où l'homme arrivera à découvrir toute sa taille, toute sa dimension. La contemplation, pour Aristote et pour Platon, c'est notre esprit, notre intelligence, dans ce qu'elle a de plus profond, qui découvre, on dirait aujourd'hui, qui dévoile la réalité suprême et qui tend de toutes ses forces à rester en présence de cette réalité suprême, qu'elle ne voit pas. Puisque cette réalité suprême que les traditions religieuses appellent Dieu, que nous l'appelions l'acte pur à la manière d'Aristote, que nous l'appelions le bien en soi à la manière de Platon, c'est la réalité suprême dont nous dépendons tous. Et c'est parce qu'il y a ce lien radical entre ce que nous sommes dans ce qui est plus profond en nous, notre esprit, notre intelligence et notre volonté, en prenant volonté au sens le plus spirituel, c'est-à-dire notre capacité d'aimer, notre capacité de rejoindre une personne. C'est parce qu'il y a de plus profond en nous que nous pouvons rejoindre cet être premier que les traditions religieuses appellent Dieu et qui est la source de notre être, de notre intelligence et de notre cœur, de notre capacité d'aimer. C'est cet effort soutenu de notre esprit, de notre intelligence et de notre volonté qui remonte à la source progressivement, étape par étape. Alors je ne vois pas toutes les étapes ici, c'est tout le cheminement de la philosophie. Tout le cheminement de la philosophie consiste à progresser d'étape en étape, puisque nous n'avons pas l'intuition de Dieu. Nous n'avons pas l'expérience immédiate de Dieu. Si on avait l'intuition de Dieu et l'expérience immédiate de Dieu, on pourrait avoir comme une intuition, un contact immédiat à l'égard de cette source qui ne serait plus cachée. Entre cette source première et nous-mêmes, il y a comme un abîme. Nous n'avons pas l'expérience immédiate de Dieu. Même dans notre attitude religieuse, d'adoration, nous n'avons pas l'expérience immédiate de Dieu. Et si on avait l'expérience immédiate de Dieu, il n'y aurait pas d'athée. Alors on dirait évidemment que l'athéisme, c'est oublier quelque chose qui est immédiat. C'est que l'intelligence met du temps à découvrir la nécessité de poser cette source première. Et qu'elle ne peut le faire que par des étapes successives. Elle découvre par elle-même la nécessité de poser cette source. Elle découvre en réfléchissant sur ses expériences, et les expériences humaines les plus profondes, la nécessité de poser cette source. Je crois que la réflexion sur l'amour, sur un amour spirituel, sur l'amour d'amitié, c'est comme la voie la plus immédiate. Parce que nous savons que cet amour qui nous lie à un autre, cet amour implique un dépassement. On est attiré par la vie, qui est notre bien. Et cette attraction montre qu'il y a en nous comme une soif qui n'a pas de limite. Personne d'entre nous ne mettra une limite à l'amour. Si on a la véritable expérience de l'amour, si on met une limite à l'amour, ça prouve qu'on n'a pas l'expérience spirituelle de l'amour. On voit bien que l'exercice de notre amour, notre manière d'aimer est limitée, et que l'appel profond du bien de la personne que nous aimons est un appel qui, en lui, n'a pas de limite et éveille en nous quelque chose qui, en lui-même, n'a pas de limite. Et c'est pour ça que saint Thomas nous dit que aimer un bien de façon spirituelle implique d'une manière implicite, d'une manière voilée, un appel beaucoup plus profond, qui est l'appel souterrain de l'être premier du bien suprême de Dieu. C'est l'amour qui est le lien le plus immédiat. Mais il faut réfléchir sur cet amour et comprendre que cet amour qui nous lie à une personne humaine implique justement à la fois une limite et quelque chose d'absolu, et qu'il y a là quelque chose qui ne peut pas s'expliquer sans une source cachée à laquelle on est relié, puisque nous sommes source d'amour et dont on dépend, et on essaie de découvrir progressivement ce que représente cet appel si profond. On pourrait dire la même chose par rapport à la recherche de la vérité. Il n'y a pas de limite dans la recherche de la vérité. Quelqu'un qui est pris par cette recherche de la vérité ne pourra jamais s'arrêter. Il voudra toujours aller plus loin, sachant très bien que ce qu'il atteint actuellement comme vérité, c'est quelque chose de très grand, mais il n'atteint pas pleinement et totalement tout ce qu'il pourrait atteindre. Il y a en nous un appel vers quelque chose de radical et de beaucoup plus fondamental. J'indique simplement ces deux voies, parce que c'est les deux voies les plus faciles pour nous à montrer qu'il y a par là comme un appel. Progressivement, l'intelligence, palier par palier, arrive à affirmer l'existence d'un être premier, source de tout ce que nous sommes. Autrement dit, ayant découvert l'existence d'un être premier, nous découvrons que cet être premier est notre créateur. Et l'intelligence humaine peut découvrir cette dépendance radicale à l'égard de l'être premier. Une fois qu'on a découvert cet être premier, on peut découvrir cette dépendance. C'est tout le problème que les traditions religieuses appellent le problème de la création. Comment établir ce lien radical au niveau de l'être, au niveau de l'intelligence, au niveau de l'amour, à l'égard de l'être premier, à l'égard de cet être premier que nous appelons Dieu. Et une fois que l'intelligence humaine a découvert cette dépendance, il y a cette attitude profonde de l'adoration. L'adoration, c'est comme une réponse de l'homme à l'égard de celui qu'il considère comme son créateur. Et l'adoration est un acte d'amour. On reconnaît que cette dépendance est une dépendance d'amour, qui demande d'être vécue dans l'amour. Et parce que cette dépendance est vécue dans l'amour, à l'égard de celui dont nous dépendons, nous cherchons à partir de là, de voir dans quelle mesure nous pouvons le connaître. Et immédiatement, nous comprenons que cet être premier, dont nous avons affirmé l'existence et que nous avons affirmé qu'il était notre créateur, cet être premier échappé à toute analyse. On analyse des êtres qui sont inférieurs à nous. Dès qu'on est en présence d'un être que nous considérons comme supérieur à nous, on n'analyse pas. C'est pour ça que dès qu'on aime quelqu'un, le considérant comme notre bien, on ne l'analyse plus. Ça, c'est le côté très fort de l'amour, qui dépasse les raisonnements. Vous analysez les réalités inférieures à vous. Et vous exercez vis-à-vis des réalités inférieures à vous cette capacité qu'on a d'analyser, de diviser, d'essayer de ramener à nous, à notre intelligence. Dès qu'on est en présence d'une réalité qui nous transcende, qui nous dépasse, une réalité qui nous attire, que nous aimons, nous savons très bien que nous ne pouvons plus l'analyser. Et nous avons à ce moment-là quelque chose qui s'éveille en nous. Quelque chose de très radical dans notre intelligence. Nous essayons de contempler. La contemplation naît à l'égard d'une réalité, d'une personne que nous considérons comme notre bien, qui nous attire et que nous reconnaissons comme nous dépassant complètement, que nous ne pouvons pas analyser, mais que nous pouvons connaître de cette manière nouvelle. Et cette manière nouvelle, c'est justement cette connaissance amoureuse, aimante. C'est une connaissance portée par l'amour. Et c'est une connaissance qui se développe à l'intérieur de l'amour. Et c'est une connaissance qui va aller le plus loin possible à travers cet amour, à l'égard de cette réalité qui nous dépasse. La connaissance contemplative est une manière nouvelle de connaître. C'est, j'allais dire, la respiration la plus profonde de notre esprit. Notre esprit radicalement est fait pour contempler. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui respirent mal, hein, et beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout ce que représente cette respiration profonde de l'esprit. Alors, ils n'ont jamais découvert vraiment ce que c'était que l'esprit. Parce que je crois que tant qu'on n'a pas contemplé, on ne sait pas ce qu'est l'esprit. On voit une modalité de l'esprit dans le raisonnement. On commence un tout petit peu à découvrir cela dans l'amour d'amitié, quand on aime profondément quelqu'un, quand on l'aime vraiment, on aime de le regarder. On l'analyse plus. Il y a cette perspicacité de l'intelligence qui pénètre à travers l'amour et qui regarde. Une mère qui regarde son enfant, l'aime et en l'aimant, elle le regarde d'un regard qui n'est plus un regard d'analyse. C'est un regard contemplatif. Et ce n'est pas la contemplation plénière, mais c'est le début de cette respiration de l'intelligence. C'est le début de cette respiration de l'esprit qui n'est plus l'analyse. Parce qu'il y a l'amour qui nous porte vers la personne que nous aimons. Et cet amour qui nous porte vers la personne que nous aimons nous permet d'avoir un regard intérieur. Quand on analyse, on a toujours un regard extérieur. On ne peut analyser qu'une réalité que nous regardons de l'extérieur. Tandis qu'au contraire, lorsque nous regardons une personne que nous aimons, nous la regardons de l'intérieur. C'est un regard tout à fait différent. Et même le regard extérieur qui analyse, très souvent, nous blesse. En disant justement que l'autre n'a pas saisi. Vous voyez, il y a une phrase que je crois que nous pourrions prendre ici, parce qu'elle est très forte. C'est dans Saint Jean, où Jésus dit que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, le monde ne peut pas le recevoir. Parce que justement, il regarde tout de l'extérieur. Là, ça me semble très fort, ça. Il y a certaines réalités qu'on ne peut regarder que de l'intérieur. C'est pour ça que pour saint Thomas, l'intelligence, c'est intus legere. C'est lire de l'intérieur. Et l'esprit ne vit, ne s'exerce comme esprit que quand il regarde de l'intérieur. Quand nous regardons de l'extérieur, nous raisonnons, nous discutons, nous analysons. C'est très bien, ça fait partie d'une activité scientifique. C'est une activité logique. Et nous dominons. Tandis qu'au contraire, lorsque nous aimons une personne, nous voulons la connaître d'une manière beaucoup plus profonde. Alors, il y a cette nouvelle connaissance affective et qui nous permet d'avoir progressivement un regard contemplatif. Vis-à-vis d'une personne humaine, ce regard contemplatif est limité parce que, justement, elle nous dépasse, mais elle ne nous dépasse pas complètement. Nous savons bien, même dans l'amour d'amitié, il y a toujours un tout petit, un œil critique qui fait qu'au début, on a été très séduit, et puis au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'il y a des limites. Et puis on dit, après tout, c'est vrai, on voit très bien ce bien, cette personne que j'aime, il y a des limites. Et dès que vous montrez les limites, vous analysez. Il y a bien cette lucidité, il faut bien la voir, parce que c'est vrai, une personne humaine, elle est limitée, donc le regard réaliste implique cela, mais montre la limite de cette contemplation. Quand il s'agit de découvrir l'être premier comme le bien suprême, comme l'esprit premier, puisque en lui l'esprit et l'être le font un, il n'y a pas de limite dans ce regard contemplatif. Mais, nous savons très bien que ce regard contemplatif se réalise dans une certaine obscurité, puisque cette réalité première qui nous attire, nous ne la voyons pas. Nous la voyons à travers ses effets. Nous la voyons à travers ce qui sont son message, ce qui parle de lui, mais nous ne la voyons pas directement. Dieu est un Dieu caché. Et le philosophe le reconnaît. S'il n'était pas un Dieu caché, il ne serait pas Dieu. Et le philosophe peut le dire tout de suite. Il est un Dieu caché parce qu'il est Dieu. Et donc il transcende complètement mon intelligence humaine. Et cependant, il y a une possibilité, par l'amour, de m'approcher de lui. À travers ses effets, les effets propres de ce Dieu créateur, je sais qu'à travers ses effets, il y a une présence. Vous comprenez bien quels sont les effets les plus caractéristiques et les plus parfaits que je peux saisir. C'est ma capacité d'aimer. C'est ma capacité de rechercher la vérité. C'est la réalité que je vois dans l'univers. Les choses les plus grandes, les plus belles de l'univers. La beauté de l'univers. La beauté et la grandeur de l'univers. Et pour moi, comme un effet qui me permet de découvrir la présence de celui qui est le Créateur. Cette contemplation qui est à base d'amour, cette contemplation reste obscure, mais elle peut exister grâce à cette présence. Dieu est un Dieu caché, mais Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est caché pour mon intelligence, mais je peux découvrir que s'il est mon Créateur, il est plus proche à moi-même que je ne suis proche. Et ceci, philosophiquement parlant, je peux le dire. Dès que je découvre que Dieu est mon Créateur, parce qu'il est ma source, et donc il ne fait pas nombre avec ce que je suis. Toutes les autres réalités font nombre avec moi. Mon voisin fait nombre avec moi. Et je ne pourrai jamais dire qu'il est plus intime à moi-même que je ne suis intime à moi-même. Quand je dis à quelqu'un qui m'aime beaucoup, tu découvres en moi des tas de choses que moi je n'ai pas découvert. Oui, au niveau de l'amour, mais pas au niveau de mon être. Au niveau de mon être, il y a nécessairement une juxtaposition, une dualité. Tandis que quand il s'agit de l'être premier, quand il s'agit de Dieu comme source d'amour, il n'y a plus cette extériorité. Et donc Dieu est plus présent à mon activité profonde que je ne suis présent à moi-même. Il est plus présent à mon esprit, à mon être, que je ne suis présent à moi-même. Ceci montre la proximité de Dieu. Et c'est grâce à cette proximité qu'il peut y avoir ce regard contemplatif. Il peut y avoir cet appel vers celui qui est caché, mais qui est intimement présent, et qui est pour moi mon bien. Et c'est pour ça que cette contemplation philosophique ne dure que par moment. Cette contemplation philosophique peut exister s'il y a en nous cet effort constant d'une recherche de la vérité. S'il y a en nous cet effort constant de l'épanouissement de notre capacité d'aimer au plan spirituel. S'il y a en nous cet effort constant de la recherche de la beauté, nous pouvons arriver progressivement à découvrir cette présence. Cette présence implique-t-elle ce qu'on pourrait appeler une expérience mystique? Autrement dit, cette contemplation philosophique, cette théoria, implique-t-elle une mystique naturelle? Là, c'est une très grave question, une question intéressante. Je vous renvoie à un livre que je connais bien, sur René Guénon, La contemplation métaphysique et l'expérience mystique, de Christophe Andrusac. C'est intéressant parce que c'est un problème qui a été repris par Guénon d'une façon très forte, et c'est le problème qui demeure toujours pour nous. Je crois qu'on doit dire que cette contemplation métaphysique, cette contemplation de sagesse, cette contemplation philosophique, n'est pas une expérience mystique au sens fort. Alors, quelle différence y a-t-il entre contemplation et expérience mystique? Il faudrait passer ici d'Aristote à Plotin. Plotin est considéré comme le philosophe de l'expérience mystique. Et je crois que c'est sûrement un des philosophes les plus nets sur ce sujet. On raconte dans la vie de Plotin qu'il avait des extases qui duraient des heures et des heures. Chacun a eu une expérience intime. Alors cette expérience intime qui n'est pas contemplation sans absolu, mais qui est unité d'amour, unité dans le silence, et pour certains disaient l'unité avec l'un. Alors, quand je dis que la contemplation philosophique, la contemplation de sagesse philosophique existe comme un regard, comme une attente à l'égard de celui qui est présent, l'expérience mystique ou la mystique naturelle, si elle existe, point d'interrogation. L'expérience mystique, c'est avant tout une expérience d'amour qui implique un contact direct avec celui qui est source de tout amour. Dans toute expérience mystique, il y a un contact beaucoup plus direct que dans la contemplation de sagesse. Et c'est pour ça que cette expérience mystique réclame le silence dans une immanence d'amour. Réclame une emprise particulière de Dieu, de celui qui est le bien suprême, sur ce qu'il y a de plus profond en nous, de plus profond dans notre esprit. Alors c'est très délicat, vous voyez, de savoir s'il y a au niveau proprement naturel une expérience mystique. Je crois que toute expérience mystique authentique à l'égard de Dieu implique la grâce. Mais on peut très bien ne pas le savoir. Ça ne m'étonnerait pas du tout que nous verrions dans la vision béatifique que Plotin avait une grâce particulière qui lui permettait de parler de cette expérience mystique. Il ne savait pas ce que c'était que la grâce. Il ne pouvait pas le savoir. C'est la révélation qui nous parle de la grâce. Un philosophe, oui, non. Mais c'est une fidélité à l'égard d'une recherche de la vérité. Est-ce que Dieu n'accorde pas à ce moment-là une grâce? Et qu'à ce moment-là, il peut y avoir pour lui une expérience beaucoup plus profonde de Dieu. Une expérience intime. Ça reste un domaine, je crois, sur lequel on doit toujours être extrêmement prudent. Il ne faut pas couper d'une façon trop brutale. Nous pouvons comprendre que la contemplation philosophique, la contemplation de sagesse philosophique et de l'ordre de l'intelligence, en s'appuyant sur l'amour, c'est une intelligence qui est enveloppé d'amour, poussé par l'amour, mais qui reste de l'ordre de l'intelligence, qui atteint un effet qui vient de Dieu, et qui à travers cet effet est en présence de la source de cet effet, et de lui-même comme philosophe, comme homme. Tandis que dans l'expérience mystique, on ne distingue plus l'effet de sa source. Et dans l'amour, il y a comme une unité entre l'effet et la source. Et c'est pour cela qu'à l'intérieur de l'amour, on a comme un contact immédiat avec Dieu dans ce qu'il a de plus lui-même, la substance de Dieu. Tous les mystiques diront ça, à la différence des philosophes. Et, sauf, encore une fois, Plotin, qui d'un côté est lié au mystique, et de l'autre côté est philosophe. C'est pour ça que c'est un cas très particulier, c'est un cas frontière. Il y en aurait d'autres, hein. Je prends Plotin parce que il a parlé grec et donc il a parlé d'une façon particulièrement claire, hein. Et il a toute une philosophie derrière qui est très intéressante. Et je crois que de fait, chez Plotin, on est vraiment dans un tas de frontières avec le point de vue mystique et le point de vue philosophique. Le chrétien, sachant que par le Christ, il a reçu une grâce d'amour, sachant que par le Christ, il a reçu une possibilité d'aimer son Père, qui est son Dieu, à travers Jésus, qui est le Fils bien-aimé. Par la médiation du Christ, il sait qu'il y a une alliance d'amour et qu'il doit vivre de cette alliance d'amour à travers le cœur blessé de l'agneau. Il peut vivre de cette expérience d'amour et que c'est même cela qui donne le sens à toute sa vie chrétienne. Tant que nous n'avons pas atteint ce contact vivant, aimant, avec la blessure du cœur de l'agneau, et par lui, avec la source de tout amour qui est le Père, notre vie chrétienne est une vie qui n'est pas encore pleinement épanouie. Saint Augustin dirait, nous restons un peu dans l'Ancien Testament. Nous restons au niveau des vertus, nous restons au niveau moral. Et notre vie chrétienne n'est pas une vie d'enfant de Dieu, n'est pas une vie vraiment pleinement épanouie. Nous ne respirons pas pleinement. Nous avançons lentement, nous ramenons, pour employer les expressions qu'aiment employer les mystiques. Ce n'est que quand nous sommes sous le souffle de l'Esprit Saint que les voiles sont ouvertes et qu'à ce moment-là, il y a une certaine liberté intérieure qui se développe et qu'il y a une expérience d'amour très profonde qui se fait directement avec le cœur du Christ, plus intime à notre cœur, que notre propre cœur est intime à lui-même, au niveau de la grâce. Nous comprenons cette proximité du cœur de Jésus comme source de grâce pour nous, comme source d'amour pour nous. Et par lui, nous sommes liés au Père. Nous pouvons réfléchir sur cette expérience au point de vue théologique. Et nous voyons cette expérience d'amour, c'est une expérience qui nous lie par l'amour qui provient de l'Esprit Saint, qui provient de nous, que nous faisons une œuvre commune avec l'Esprit Saint, et que par cet amour, nous sommes directement liés à la source de tout amour, qui est le cœur du Christ. Et dans le cœur du Christ, nous sommes liés à la source de tout amour, qui est le Père. Ceci se réalise dans la foi et donc dans l'obscurité de la foi, mais ça se réalise dans le réalisme de l'amour et d'un amour divin, qui est donc un amour substantiel, pas seulement intentionnel. Donc un amour qui a tout le réalisme profond de l'amour divin qui nous est donné. Nous avons donc à ce moment-là un contact immédiat, substantiel, avec la source de tout amour, notre Père, Dieu, par et dans le cœur du Christ. Vous voyez que là, il ne s'agit plus au sens précis d'une contemplation, mais disons une expérience d'amour. Et ceci grâce au don du Saint-Esprit. Il y a cette expérience qui nous met dans le silence, comme toute expérience profonde d'amour. Toute expérience profonde d'amour nous met dans le silence. On n'a pas envie de parler quand on aime avec une très grande intensité. Après, on parle, mais pas sur le moment même. Sur le moment même, on est saisi par cet amour, et cet amour est capable, justement, de mobiliser toutes nos forces. Il y a comme le dépassement à l'égard de l'intelligence. Surtout quand il s'agit de cette expérience mystique chrétienne qui se réalise dans la foi. Et la foi fait qu'il y a comme un silence de l'intelligence. Il y a un acte de foi qui est présent, donc notre intelligence est bien en acte, mais notre intelligence accepte d'être totalement dépassée par l'amour. Et c'est là où il faut bien comprendre que cette expérience mystique n'est pas du même type que la contemplation philosophique. C'est vraiment deux aspects différents. Y a-t-il contradiction ? Non. C'est le même Dieu qu'on atteint. Il ne faut pas dire le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens. C'est le même Dieu qu'on atteint, parce que s'il y a une différence entre les deux, ça prouve que le Dieu des philosophes n'est pas le vrai Dieu. Et donc c'est un Dieu que le philosophe s'est construit, et on voit très bien comment Pascal a pu dire ça. Parce qu'il était en face de certaines philosophies qui étaient plus des idéologies qu'une véritable philosophie. Parce que Dieu, on ne l'atteint pas à travers une idée. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir une idée de Dieu. Si vous avez une idée de Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est ce que vous vous êtes forgé. Il n'y a pas de concept de Dieu. On ne peut pas avoir un concept de Dieu. Si vous aviez un concept de Dieu, ce concept serait contradictoire. C'est Sartre qui dit ça. Et là, il a raison. Avoir un concept de Dieu, ce serait contradictoire. Je ne peux pas avoir de concept de Dieu. Je peux simplement affirmer que Dieu existe. Et si j'avais un concept de Dieu, Dieu ne serait plus le Dieu caché. Dieu serait le Dieu de mon concept. Et par le fait même, je le mettrais dans une petite boîte dorée, mais ce serait une petite boîte dorée, ce serait mon concept, ce serait mon idée. L'idée la plus géniale que j'ai, c'est l'idée de Dieu. Mais non, il n'y a pas d'idée de Dieu. Il n'y a pas de concept de Dieu. Je peux simplement affirmer qu'il existe. Alors oui, ça, je peux affirmer qu'il existe. Et le jugement va plus loin que le concept et adhère à la réalité qui me dépasse, qui va plus loin. C'est pour ça que j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être aidé par l'amour. Le Dieu que le philosophe contemple, c'est le Dieu créateur. Et c'est le Dieu créateur qui contemple à travers les effets propres de la création. Les effets les plus parfaits de la création. Le Dieu que le mystique chrétien touche, expérimente, c'est le Dieu qui est triune. C'est le Père qui me donne son Fils et qui me permet de vivre du Fils bien-aimé à travers et dans son esprit. C'est une expérience du mystère de la fécondité de Dieu, du mystère de la très sainte Trinité. C'est une expérience non plus du Dieu créateur en premier lieu. Ça n'exclut pas l'expérience du Dieu créateur. Mais ce n'est pas cela qui est donné en premier lieu. En premier lieu, c'est l'expérience du Dieu Trinité. À travers le don de la grâce, le don de la charité qui m'est fait par Jésus. Je vois bien tout l'abîme qui existe entre les deux. Il n'y a pas de contradiction. Étant donné que la grâce qui m'est donnée par le Christ, que cette grâce chrétienne que cette charité ne détruit pas mon intelligence. Que la foi ne détruit en rien mon intelligence. Au contraire, elle l'ennoblit. Normalement, la foi doit purifier mon intelligence et permettre à mon intelligence d'avoir une vigueur native, une vigueur plus profonde, et qui lui permet de fait d'aller plus loin, sans lui apporter une nouvelle manière de connaître, sans lui apporter de nouveaux concepts. La foi n'apporte qu'un nouveau jugement d'existence, mais elle n'apporte pas de nouveaux concepts. Et c'est pour cela qu'il n'y a aucune opposition entre l'expérience mystique et la contemplation de sagesse philosophique. Il n'y a aucune opposition, mais il est évident que l'expérience mystique chrétienne, à travers le cœur blessé de l'agneau du Père, sous le souffle de l'Esprit Saint, a une intensité d'amour qui va beaucoup plus loin. C'est infini, cette intensité d'amour. Ce qu'il fait que je suis moins attentif à la contemplation philosophique. Mais si je dois être attentif à cette recherche philosophique, et si je dois essayer de comprendre ce que représentent ces différentes étapes de la recherche philosophique, je crois que la foi, je crois que cette expérience mystique ne supprime en rien cette recherche philosophique. Au contraire, elle lui permet d'aller plus vite. Elle lui permet d'aller, de laisser tomber, si vous voulez, tout ce qui risquerait de m'écarter de cette recherche, en me mettant dans une orientation constante vers la recherche de la vérité. Normalement, l'expérience mystique du chrétien doit augmenter en lui la soif de la vérité. Et normalement, l'expérience mystique du chrétien, quand elle est une véritable expérience mystique d'amour, elle doit conforter mon intelligence humaine et lui permettre d'atteindre son terme naturel, cette contemplation philosophique. Cela ne veut pas dire que cette contemplation philosophique, alors, n'est plus une contemplation philosophique, pas du tout. Exactement comme la grâce ne détruit pas la nature, et que la grâce permet à l'homme d'être parfaitement homme, et que, de fait, la charité ne détruit en rien l'amour d'amitié, la charité divine. Mais elle permet au contraire à ma volonté d'aller plus loin dans cette recherche de l'amour d'amitié. Ce sont ces rapports que nous touchons entre le mystère de l'intelligence humaine et de la foi, de notre volonté humaine et de la charité. Et nous comprenons que si la grâce ennoblit l'homme et lui permet d'aller plus loin, la grâce ne détruit pas ce qu'il y a d'essentiel dans l'homme, ce qu'il y a de fondamental dans l'homme. De sorte que je conclurai en disant que l'expérience mystique chrétienne dépasse infiniment la contemplation philosophique, la sagesse philosophique. Elle est d'un autre ordre. Mais que cette contemplation, que cette expérience mystique ne détruit en rien la grandeur, la noblesse de cette contemplation philosophique qui montre alors la qualité divine de son intelligence humaine, comme disaient les Grecs. Hein. L'intelligence a quelque chose de divin. Et c'est pour ça qu'elle est faite pour Dieu.